enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Je voudrais partager avec vous le grand thème, savoir discerner la présence de Dieu. Parce que le monde chrétien aujourd'hui est beaucoup habitué à beaucoup d'activités, beaucoup de choses qu'ils font pour Dieu, mais ils oublient que le christianisme, c'est pas une association. Le christianisme n'est pas une philosophie, ni une culture. Le christianisme, c'est la vie divine implantée dans un homme naturel pour qu'il puisse faire ce pourquoi Dieu l'a sauvé. Alors, si nous ne savons pas cela, nous allons faire beaucoup de choses qui vont nous épuiser. Et nous tombons dans la dépression alors que, malheureusement, n'ont pas compris qu'en nous et avec nous se trouve celui qu'on appelle le prince de paix. Le prince de paix, non seulement l'a dit clairement dans Matthieu 28, 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Savoir ces choses est une chose, si je m'exprime ainsi, mais l'expérimenter, vivre la réalité de la présence de Dieu est une autre chose que très peu de chrétiens aujourd'hui savent faire et maintenir. Jésus a insisté sur ces réalités. Il dit que je suis avec vous tous les jours. Cela veut dire quand? Dans les bons et les mauvais moments. Cela veut dire dans les temps d'épreuve comme dans les temps de joie. Mais combien de chrétiens réellement arrivent à réaliser la présence du Seigneur avec eux dans la fosse aux lions ou dans le feu qu'ils traversent, dans les problèmes familiales qu'ils traversent? Alors, si Dieu n'est pas réel, le christianisme n'est pas différent d'aucune autre religion. Religion pour religion, sans la présence effective de Dieu avec nous par le Saint-Esprit, toutes les religions s'équivalent. Ce qui fait la différence avec le christianisme, nous avons un Dieu vivant, mais surtout, il est en nous et avec nous. Alors, quand nous commençons à nous apercevoir de cela, notre vie prend une autre direction. Notre vie n'est plus une somme des activités. Donc, non, mais notre vie est l'expression de la vie divine en nous et au travers de nous. En nous, pour nous permettre de vivre, de nous épanouir, et au travers de nous, pour atteindre les autres. Je ne peux pas impacter la vie de mon voisin si moi-même je ne sais pas comment garder la vie divine, si je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'elle est. Donc, mon voisin ne saura jamais bénéficier de cette vie divine qui est en moi. Alors, c'est pourquoi, frères et sœurs, cette semaine, à travers la prière, mais aussi à travers les enseignements du matin et du soir, nous allons voir. Et notre introduction ce matin, c'est d'ouvrir votre Bible dans Luc 24. Je vais aller simplement dans un passage, sans quitter ce passage, sauf quelquefois, pour nous permettre de l'enrichir. Nous allons faire une exhortation dans Luc 24 et à partir du verset 13. La Bible dit, si vous avez trouvé, sinon vous pouvez tout juste noter et le lire à la maison. Verset 13, c'est le jour de la résurrection. C'est le jour où Christ est sorti du tombeau. Et la Bible nous dit ici, et voici, ce même jour, deux disciples, vous entendez? On n'a pas dit deux non-chrétiens, on n'a pas dit deux personnes, on n'a pas dit deux pharisiens, on dit deux disciples. Des gens qui sont censés être sous la discipline de Jésus, qui sont censés avoir entendu les enseignements du Seigneur. On parle de deux disciples comme vous et moi. Et nous allons découvrir quelque chose pas à pas et nous allons réaliser que nous ressemblons parfois à ces deux disciples-là. Deux disciples. Et La Bible dit, ils allaient à un village nommé Emmaüs. Emmaüs veut dire peuple obscur. Vous imaginez, le jour de la résurrection, le jour de la victoire, le jour de la célébration où Jésus est ressuscité, voici deux de ses disciples qui sont en train de retourner dans leur vie ancienne. C'est terrible. Le jour de la résurrection, le jour où le tombeau a été vaincu, où la mort a été vaincue, le jour où le monde entier, les anges, célébraient la résurrection du Seigneur, les disciples étaient éparpillés et en plus, deux de ces disciples-là retournaient dans leur ancienne vie, dans leur ancien contexte, dans leur ancien environnement. Qu'en est-il de vous aujourd'hui? Deux disciples, on n'a pas dit deux adversaires de Jésus, on n'a pas dit deux ennemis de Jésus, on dit deux disciples. Pendant 3 ans et demi, ces hommes-là se sont assis aux pieds du Seigneur, ont écouté les enseignements du Seigneur, ont entendu qu'il va mourir, qu'il va ressusciter le troisième jour. Ils ont entendu tous ces enseignements. Et le troisième jour, le jour de la résurrection, ils ont quitté Jérusalem, la cité de la paix, pour aller à Emmaüs, le peuple obscur, le village obscur, l'obscurité. Alors, je vous pose la question. Quelles sont vos réactions dans les temps difficiles où la présence du Seigneur semble être évanouie? Où la présence du Seigneur n'est plus tangible? Quelle est aujourd'hui? Vous êtes venus ici. Certains sont malades, d'autres sont dans des difficultés familiales. Mais pourtant, la réalité du Seigneur est là. Puisqu'il a dit qu'il est avec vous, il est en vous. Pourquoi retournez-vous à Emmaüs? Qu'allez-vous faire à Emmaüs? Vous quittez Jérusalem, la paix, la présence de Dieu, vous allez à Emmaüs, le peuple de l'obscurité. Regardons le cheminement. Ce cheminement-là, parce qu'ils n'ont pas encore eu la révélation de la réalité de la présence de Dieu avec eux. Et si nous lisons la suite, la Bible dit, « Et les deux s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. » Ils s'entretenaient des événements passés donc dans les 48 heures. Et pendant qu'ils parlaient, verset 15, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Jésus s'est approché. Ce matin, Jésus s'approche de vous par sa parole. Écoutez, et vous allez voir ce qu'il va faire. Il s'approche de vous parce qu'il sait, il voit votre situation, il voit votre difficulté de réaliser sa présence, de comprendre sa présence avec vous. Vous posez tant de questions. Et voilà qu'il s'approche. Et quand il s'est approché pour faire route avec eux, la Bible dit, en ce moment-là, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus était réel. Il était là avec eux. Qui, le Jésus ressuscité, est présent avec eux et il fait route avec eux. Mais la Bible dit, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Pourquoi? Pas parce que Dieu a empêché leurs yeux. Parce que leurs yeux étaient fixés sur autre chose que sur la résurrection. Sur quoi vos yeux sont fixés aujourd'hui? Sur vos symptômes de votre maladie? Qu'est-ce qui vous empêche de reconnaître la présence de Jésus? Vos problèmes familiaux? Qu'est-ce qui vous empêche? Vos difficultés? Jésus est là, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils l'ont regardé. Ils l'ont examiné. Ils l'ont regardé d'en haut, de haut en bas. Ils ont tout vu. Mais ils ne pouvaient pas le reconnaître parce que dans leur pensée, leurs yeux étaient fixés sur leurs propres problèmes. Combien de fois le Seigneur vous a visité par sa présence et vous n'avez pas pu savoir que c'est lui? La question est très importante. En tant que chrétien, c'est ça. Le christianisme progresse. Ce n'est pas la paix. Nous allons entrer dans des temps d'épreuves au fur et à mesure que nous avançons. Alors, si maintenant, où nous sommes dans des tests, dans des temps de tests, de simples tests, vous ne savez pas discerner la présence de Dieu, comment Shadrach, Abednego et Daniel ont-ils pu accepter? Parfois, les gens croient que c'est de l'anthropologie grecque. Quand les gens lisent la Bible, ils ne croient pas ces réalités-là. Ils croient que Daniel n'est pas tombé dans un feu. Peut-être c'était un semblant de feu. Ils ne croient pas que Shadrach, Abednego et donc leurs amis sont entrés réellement dans le feu et que Daniel est tombé dans la fosse au lion. Ils ne croient pas cela. Mais Daniel était conscient de la présence de Dieu. Il savait que Dieu est réel. Il n'avait pas une doctrine de la présence de Dieu. Il y a la doctrine de la présence de Dieu. Il y a l'enseignement de la présence de Dieu. Il y a la réalité de la présence de Dieu. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Nous allons voir, nous voyons ici, on ne va pas quitter le texte, on va rester là. On va l'enrichir simplement. Quand vous lisez la Bible, actuellement, quand vous fermez la Bible, vous fermez la bouche de Dieu. Quand vous l'ouvrez, vous ouvrez la bouche de Dieu. Beaucoup de gens ont fermé la bouche de Dieu ce matin. Quand j'ouvre ma Bible, j'ai dit à Dieu, s'il te plaît, parle-moi, je vais t'entendre. C'est ça que ça veut dire simplement. C'est tellement logique. Tellement logique, quand j'ouvre la Bible, je dis à Dieu, je suis poli, parle-moi. Et le Saint-Esprit qui est en moi va me faire comprendre la parole. Et je la lis, je suis en train de méditer le matin, voilà. Je vais être un chrétien victorieux. Et je vais méditer la parole de Dieu. Et je prends ce texte-là pour méditer. Et Dieu, le Saint-Esprit me parle. Il me dit, mon fils, es-tu comme les disciples d'Emmaüs? Je m'arrête et je réfléchis. Ah, dit Seigneur, c'est vrai. Souvent, je me suis comporté comme eux. Souvent, je n'ai pas été... Il faut se repentir chaque fois que la parole de Dieu vous parle. Seigneur, j'ai été comme eux. Mon attitude a été comme eux. Je n'ai pas été capable de reconnaître ta présence sur le chemin d'Emmaüs. Pourquoi? Mes yeux étaient empêchés de te reconnaître. Parce que mes yeux étaient fixés sur mes symptômes. Quand les yeux d'un malade sont fixés sur les symptômes, vous êtes fixés sur la parole de Dieu, la guérison devient difficile. Quand dans une famille, les problèmes, tout le monde a, l'homme a les yeux fixés sur la femme a les yeux fixés sur le mari, c'est difficile que les problèmes soient résolus. Difficile que les problèmes soient résolus. Frère, voici le vrai problème. Jésus est là, il est là en chair et en os. Il est là avec eux. Il fait route avec eux. Et nous continuons. Et vous savez, ces passages-là sont des passages très importants. Et verset 17, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? Qu'est-ce qui vous a amené, chrétien, ce matin? Qu'est-ce qui vous amène à être triste? Pourquoi êtes-vous triste? Quelle est la raison de votre tristesse? La question est posée. Le Seigneur pose à deux disciples. Le jour de la résurrection, vous êtes triste. Je ne comprends pas. Vous avez un Jésus vivant et vous êtes triste. Et Jésus ne comprend pas cette attitude. Le jour de la résurrection, c'est le jour de la célébration, c'est le jour de la joie, c'est le jour de la louange, c'est le jour de l'adoration. Et c'est ce jour-là que les disciples sont tristes. Alors, Jésus ne comprend pas. Il y a un hiatus entre la vie chrétienne théorique et la vie chrétienne réelle. Et réfléchissez ce matin pourquoi vous êtes triste. Qu'est-ce qui vous rend triste? Il y a deux raisons. C'est dans le même texte. N'allons pas ailleurs, nous sommes en train de faire une étude biblique matinale. Dans le texte est là devant vous. Pourquoi êtes-vous triste? Deux raisons. Regardons verset 18. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Première raison de leur tristesse, c'est qu'ils n'ont jamais eu la révélation, la connaissance que Jésus était fils de Dieu. C'était un simple prophète. Et un prophète est limité, mortel. Vous entendez? Quelle est votre révélation de Jésus ce matin? Vous dites, le pasteur a dit qu'il est fils de Dieu. L'avez-vous expérimenté? Si le meilleur des enseignants, Jésus-Christ, a enseigné des gens 3 ans et ils sont arrivés à une classe de Toto, tire ta tête. Ils sont là dans l'échec total. L'échec. Ils n'ont même pas pu passer le certificat d'études. C'est ça la vie chrétienne. Ils ont échoué. Tous les 11 disciples ont échoué. Et voilà 2 en particulier qui sont en train de redoubler. C'est terrible. C'est terrible. Jésus est là. le professeur Jésus est ressuscité d'entre les morts. Le professeur demande à ses deux disciples qui ont fait un cycle de 3 ans avec lui, il va les faire passer un test, un examen. Ils ont tous les deux échoué. Ah bon? Pourtant, il a dit tout le temps, je suis l'agneau de Dieu. Pourtant, il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Pourtant, il leur a dit plusieurs fois, je suis le fils de l'homme. Il leur a dit qui il est. Et ils répondent, es-tu le seul à savoir, à ignorer que Jésus, un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu, est mort? Ah bon? Heureusement, Jésus n'est pas comme nous, sinon il serait tombé dans la dépression. Avec des disciples comme ça, avec des élèves comme ça, c'est la dépression directe. Vous enseignez des gens 3 ans et puis ils vous sortent une réponse aussi laconique. La question, ce matin, Jésus était un simple prophète. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens qui veulent s'adapter à tout le monde. Et quand les gens disent en ville que Jésus est un prophète, il dit oui, que nous avons le même Dieu, il dit oui. Alors, si, écoutez, si le Dieu qui a dit que Jésus est son fils, le Dieu qui a dit que Jésus est son fils, et si vous dites que oui, on a le même Dieu, et cette personne dit que Jésus est un simple prophète, alors frère, quelque chose ne va pas dans votre vie chrétienne. Je vous dis la vérité, quelque chose ne va pas dans votre vie chrétienne. Quelque chose ne va pas. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Tous les prophètes ont leur tombeau. Et fermé, bien fermé. Le seul tombeau ouvert, où là où il est écrit, il était ici, il n'est plus là, c'est le tombeau du Fils de Dieu. Alors, pourquoi vous êtes troublés? Parce que vous avez un Jésus limité, un Jésus que vous avez mis en cage. Dans la cage pour faire plaisir aux gens. Vous ne voulez pas déranger tout le monde. Vous ne voulez pas déranger les gens. Vous dites non, moi je ne veux pas déranger les gens. Tout le monde dit Jésus est prophète. Disons Jésus est prophète. Voilà, vous aménagez les choses, les contours avec tout le monde. Vous êtes en paix avec tout le monde. Et c'est pourquoi votre vie chrétienne est en train de dégringoler. Pourquoi vous n'avez pas la joie? C'est la première source de leur tristesse. Ils sont tristes parce que Jésus le prophète est mort. Ils sont tristes. Jésus le prophète est mort et aucun prophète ne peut ressusciter. Aucun prophète n'est jamais ressuscité. Deuxième source qui a fait qu'ils étaient tristes sur la route d'Emmaüs et qui les a fait retourner à Emmaüs. Deuxième raison, et au verset 21, nous espérions, vous entendez? Regardez leur langage. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Nous espérions. Leur attente est déçue. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont tristes? Parce qu'ils ont des attentes qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu. Ils ont des attentes d'eux-mêmes. Je vais à la réunion ce dimanche matin parce que je pense que j'espère que Dieu va me faire ceci. Non, ça ne marchera pas. Leur attente était en opposition avec la parole de Dieu. Ils attendaient un roi d'Israël. Dieu leur a pas promis que Jésus serait le roi, le Messie serait le roi. Il est le roi du royaume, pas le roi d'Israël dans le sens politique. Quelle est l'attente? Quelle est votre attente aujourd'hui? Quelle est votre attente? Qu'attendez-vous de Dieu? Pourquoi êtes-vous, vous venez aux réunions? Réfléchissez, regardez vos motivations. Pourquoi vous venez aux réunions du mardi, du dimanche matin? Pourquoi vous venez? Pourquoi ces attentes ne sont jamais réalisées? Parce qu'elles sont opposées à la parole de Dieu. Si vous voulez que vos attentes se réalisent, il faut prendre Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais les choses qu'on espère viennent d'où? De la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, pas de mes espérances. Sinon, vous allez continuer à vous tromper, à vous séduire. Et vous allez à la fin vous dire que le christianisme ne marche pas. Le christianisme marche. Ça fait 34 ans que je suis là-dedans, ça marche. 34 ans que je suis là-dedans et il n'y a aucun problème. Ça marche, mon frère. Et ça marchera toujours. Donc, voilà les deux raisons principales. Alors, ce matin, examinez-vous vous-même. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. 2 Corinthiens, mais examine-toi toi-même. J'aime ça. Parce que j'aime étudier de cette manière-là. Je m'examine, je m'assois, je dis Mamadou Karambiri, examine-toi toi-même. Je me parle à moi-même. Ne sois pas insensé. Voilà ce que la Bible dit. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu en dis, Mamadou Karambiri? Si ce n'est pas bon, je me répands. Et je demande pardon à Dieu. Et je demande à ce que son Saint-Esprit me conduise à aller de l'avant. Mais si vous lisez comme un roman, comme le journal du jour. Et vous fermez, vous partez. Rien ne se passera dans votre vie. C'est là, Dieu a tout fait. Il est dit au commencement, il a tout créé par la parole. La parole seule, révélée, a le pouvoir de vous changer. La parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et au commencement, il a, rien n'a été fait sans la parole. C'est la parole qui vous engendre, qui, par la parole, Dieu vous a engendré. Par la parole, la semence incorruptible qui est sémée. Car la parole est tellement puissante. Comme le grain de blé. Vous imaginez, le grain de blé est un tout petit grain. Mais quand vous ouvrez le sol, vous le mettez là-dedans. Et vous mettez la terre sur le grain. Dans une semaine, ce petit grain-là, non seulement il meurt en lui-même. Deuxièmement, le petit, il commence à germer. Et il va pousser toute la terre qui est sur lui. Et il sort sa tête. Pourquoi? Dans chaque semence, il y a la vie, il y a la puissance. Il y a la multiplication, il y a tout là-dedans. La parole est comme cela. Elle est puissante, elle est capable de renverser toutes les montagnes devant vous si vous demeurez dans la parole. Qu'est-ce que vous en faites de cette parole? Quelle est votre relation avec la parole? Souvent, on aimait prier pour les gens, mais j'ai constaté, en voyageant beaucoup maintenant, j'ai constaté que les gens n'ont pas besoin de prier, ils ont besoin de la révélation de la parole. La plupart du temps, les gens qui disent « priez pour moi », si vous priez, vous allez passer pour un pasteur inefficace. Parce que vous ne réussirez pas, ils vont se promener dire que « mais telle personne a prié pour moi, rien ne s'est passé ». Parce qu'ils n'ont pas d'abord résolu le problème avec la parole. Que crois-tu? Que veux-tu? Qu'est-ce que la Bible dit? Ah, je ne sais pas. Ah, si tu ne sais pas, vous allez chez le médecin, vous ne croyez pas au médecin, aux paroles du médecin, comment vous serez guéri? Soyons logiques. Frère, savoir discerner la présence. Vous voyez là, jusqu'à présent, on est en train d'avancer avec eux. Mais regardons, et verset 22, il dit une phrase. Et ces deux disciples disent, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Oh, bonne femme. Ah oui, elles aiment nous étonner tout le temps. Ouais, là, ouais, c'est pas aujourd'hui que les gens comme Samuel ne croient pas aux femmes. C'est pas aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis ce temps-là. Et ils ont dit, ces deux-là, ils ont dit non. Il y a des femmes qui nous ont fort étonnés. Elles nous ont raconté des bonnes histoires de femmes. Des histoires qui ne tiennent pas debout. C'est ça. Des bonnes histoires de femmes, c'est très bien pour les femmes, mais c'est pas logique, tu sais. Quand ta femme parle, ne parle pas. Parce que. Voilà, il disait entre eux, il disait à Jésus, tu sais, c'est des bonnes histoires de femmes. Il y a les histoires de bonnes femmes, il y a les bonnes histoires de femmes. Les histoires de bonnes femmes, c'est celles auxquelles on croit pas facilement, parce qu'on ne sait pas où commence, où ça finit. Mais les bonnes histoires de femmes, c'est quand vous arrivez, qu'elle fait un bon plat, et puis vous mangez, elle vous gâte et tout. Après, elle vous dit, bon, j'ai besoin d'aller au salon, il faut ouvrir le portefeuille pour donner de l'argent. Ça, c'est des bonnes histoires. Donc, ne pas confondre les histoires de bonnes femmes et les bonnes histoires des femmes. Donc, vous savez, c'est important. Donc, ils ont dit, ces bonnes femmes, quelques femmes nous ont étonnés. Elles nous ont fort étonnés. Mais vous imaginez des gens qui ont marché avec Jésus 3 ans et demi. Des gens à qui il a parlé de sa mort, de sa résurrection. Et qui leur a dit, quelques jours avant qu'il meure encore, il leur a répété que le Fils de l'homme sera glorifié. Il leur a répété, quand il lavait leurs pieds, tout juste l'avant-veille de sa mort, il leur a dit toutes ces choses. 3 jours seulement après, ils disent qu'ils sont étonnés. Ils sont étonnés de quoi? Qu'est-ce que ces femmes l'ont dit? S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Alors, qu'il est vivant. Mais cela devait réjouir tout le monde. Mais non, ça les a troublés. La présence de Dieu, la réalité de la présence de Dieu est ce qui vous permet, nous permet, vous et moi, d'avancer plus rapidement. Quand vous avez l'assurance de la présence de Dieu en vous et avec vous, vous pouvez être troublé, vous pouvez avoir des problèmes terribles devant vous. Mais vous savez qu'il est avec vous, il est en vous. Vous savez qu'il est avec vous, il est en vous. Ça vous donne l'assurance et nous progressons. Regardons maintenant verset 24. Nous sommes en train de faire notre étude biblique matinale. C'est notre introduction ce matin. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, quel était le problème de ces deux hommes? On a vu qu'il y avait deux raisons principales. Parce qu'elles n'ont pas cru qui était Jésus. N'ont jamais eu la révélation de qui est Jésus. Jamais. Ils ont cru que c'était un prophète. Et quand on n'a pas la révélation, la Bible dit que la révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence aux simples. 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Et ils n'ont pas cette révélation. Ils avaient une attente qui n'avait rien à voir avec Jésus. Regardons maintenant, Jésus va soulever deux problèmes à leur niveau et ces deux problèmes nous concernent ce matin. Quels sont les deux problèmes que Jésus va mettre en exergue pour les enseigner? Verset 25, il dit, Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, donc ô homme dont l'intelligence n'est pas renouvelée. Romains 12, verset 2, Paul nous a dit la même chose. Paul dit que pour connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous entendez? Dans la volonté de Dieu produit trois choses. Vous entendez? La volonté de Dieu produit trois choses. Romains 12, verset 2. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Voilà la volonté de Dieu. Si dans votre vie, à la volonté de Dieu, vous avez les trois éléments. Ce qui est bon, agréable et parfait. S'il y a la volonté de Dieu, il n'y a pas ces trois éléments-là, ce n'est pas vrai. Romains 12, verset 2. Jésus leur dit, ô homme sans intelligence. Ce n'est pas une insulte, frère. Non. Il a dit, mais j'ai enseigné depuis 3 ans. Vous avez été à la meilleure école biblique qui puisse exister. Vous avez entendu le meilleur des professeurs. Et votre intelligence n'a pas été renouvelée. Votre intelligence ne s'est pas alignée sur la parole de Dieu. Votre intelligence continue à s'opposer à la pensée de Dieu. Voici le vrai problème que nous avons aujourd'hui avec l'Église, donc du troisième millénaire. Chaque fois que Dieu parle, votre pensée s'oppose à la parole de Dieu. Dieu a dit, mais, le fameux mais est là. Dieu a dit, oui, Jésus nous a dit qu'il va ressusciter. Mais nous sommes étonnés dans la confusion parce qu'on nous a dit effectivement qu'il est ressuscité. Pourtant, ce n'est pas logique qu'un homme qui est mort depuis 3 jours ressuscite. Ce n'est pas logique. Voici le vrai combat. C'est pourquoi la transformation de notre vie est difficile. Là, le changement de cœur est difficile. Pourtant, Dieu a dit que si quelqu'un est une nouvelle création, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Il ne veut pas deviner. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. On n'a pas besoin. L'enseignement du chrétien, c'est pour changer sa mentalité. Mais on ne peut pas naître de nouveau pendant 5 ans. Ah non. Ça, je refuse. On ne peut pas prendre 5 ans pour qu'un chrétien naisse de nouveau. La nouvelle naissance est automatique dès qu'on a reçu Christ. Ce qui manque chez les gens, c'est la transformation de l'intelligence. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Romains 8, versets 1 et 2 dit, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car, il dit, la loi de l'esprit de vie, nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Il y a une loi terrible, une loi terrible qu'on appelle la loi du péché et de la mort. Cette loi-là est comme la loi de la gravitation. Avec la loi de la gravitation sur le plan naturel, quiconque veut s'élever est écrasé. La loi du péché et de la mort, quiconque est né dans ce monde-là, veut s'élever au-dessus du péché, est écrasé par la loi du péché et de la mort. Il y a une autre loi supérieure. Pour vaincre la loi de la gravitation, il a fallu trouver la loi de l'aérodynamique. Par la loi de l'aérodynamique, on a vaincu la loi de la gravitation permettant aux avions de voler, d'aller plus haut. Pour vaincre la loi du péché et de la mort chrétien, il te faut que la loi du Saint-Esprit, la loi de l'Esprit de vie, opère en toi. Et sans la révélation, tu te plaques tout le temps sur le sol. La loi de l'Esprit de vie. Le verset 1 de Romains 8 dit la même chose. Dieu a ressuscité Christ par cette loi de l'Esprit de vie. Alors, réfléchissez un peu. Voici un homme qui est mort trois jours. Un homme totalement mort. Le sang est mort, les yeux sont morts, le cœur est mort, les poumons sont morts trois jours. Il ne voit plus, il n'entend rien. Trois jours, il est mort. Tout est mort en lui. Mais, quand la loi de l'Esprit de vie est rentrée en lui, il s'est levé. Alors, je vous pose la question. Est-ce que vous avez une situation plus grave que celle de Jésus? Est-ce que vous avez un problème dans votre vie qui est plus grave que le problème de Jésus? Si l'Esprit de vie a pu ressusciter un mort de trois jours, est-ce que votre péché là vaut la mort? Et vous dire que Dieu ne peut pas vous délivrer? Quel est ce Dieu là? Quel Dieu vous avez rencontré? Lequel? Non, il faut qu'on se dise la vérité, yeux dans les yeux. Dieu ne peut pas vous délivrer? Quel est ce Dieu? Lequel Dieu vous avez rencontré? Si vous êtes comme les disciples d'Emmaüs, c'est un prophète. Là, aucun prophète ne peut vous délivrer. Aucun prophète ne peut vous changer. Mais pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, frère, il y a un défi là qui est lancé à votre raisonnement. Il y a 34, je n'étais pas un chrétien. Je m'étonne que vous naissiez dans une culture chrétienne, vous grandissez dans une culture chrétienne et vous avez de la Bible sous tous les angles, sous tous les formats, gros format, petit format, moyen format, petit double format. Je ne comprends pas, non, je ne comprends pas, non, je vais vous parler sérieusement là. Mon contexte n'était pas un contexte biblique. Je n'ai pas de formation judéo-chrétienne. Vous vous dites, vous élevez avec votre judéo-christianisme, très bien. Mais où est le résultat? Où est le résultat dans votre vie? Où est Jésus? Il est en toi, mais il fait quoi là-bas? Il fait du tourisme? C'est une réponse laconique. Il est en toi et ta vie n'est pas changée. Réfléchissez là. Jésus est en toi et un petit bout de cigarette te tient esclave. Jésus est en toi. Quand tu vas sortir tout de suite, tu vas fumer. Jésus est en toi. Pourquoi Jésus n'a pas mis une cheminée ici? Les cheminées de ta maison, c'est où? C'est en bas? C'est ici? C'est là? Non, écoutez, il faut qu'on soit sérieux là. Il faut qu'on arrête de s'amuser avec Dieu. Ou il est réel ou il n'est pas réel. Ah oui. C'est à prendre ou à laisser. Il ne faut pas s'amuser avec lui. Son fils est mort trois jours. Totalement froid. Le Saint-Esprit rentre. Ramène tout son sang. Tout son sang est fluidifié. Ses yeux, ses nerfs, son cœur, tout est devenu normal. La mort est partie. Et le même Saint-Esprit rentre en toi. Et tu continues à être dominé par le péché. Ce n'est pas le même Saint-Esprit. Hein? Si c'est le même Saint-Esprit, il doit produire le même résultat. Réfléchis un peu là. Réfléchis, tu verras. Je suis en train de défier ton intelligence, ta pensée. Jusqu'à présent, tu n'as pas osé aller jusque-là. Jusqu'à présent, tu dis, oui, mais Jésus est bon, il est bon. Il est bon en quoi? Un bonbon, ça crée des problèmes à la bouche. C'est les bonbons qui créent la carie dentaire, oui ou non? Si Jésus n'est qu'un simple bonbon, tu auras des caries dentaires spirituelles. Non, Jésus, regardons, Jésus est étonné. Il dit, mais frère, vous voyez là, Il dit deuxième chose, et le cœur lent à croire. Tout ce qu'ont dit les prophètes, le cœur lent à croire. L'intelligence n'est pas renouvelée. Pour la modérer sur l'intelligence du Seigneur, deuxième chose, le cœur est lent à croire. Le cœur est lent, il est lourd. Proverbe 4 nous dit, verset 23, il dit, veillez sur votre cœur, car c'est de lui qui viennent les sourds de la vie. Le cœur est lent à croire. Le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes, ce qu'on dit, ce que la Bible dit, le cœur est lent à croire. Le cœur est lent à croire. Dieu a dit oui, mais le cœur est lent à croire. Voici les deux raisons que Jésus a soulevées et qui sont d'actualité aujourd'hui. L'intelligence non renouvelée et le cœur lent à croire. Alors il va leur donner la solution. Et même la solution est devant vous. Le même texte, verset 27. Et commençant par premier élément de la solution, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui les concernait. Donc Jésus va utiliser la parole pour les convaincre. La parole est le seul moyen pour changer ma vie, changer votre vie. Il n'y a pas d'autre moyen, frère. Il a commencé par Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire par Moïse? Les cinq livres de Moïse. Il a commencé par les cinq livres de Moïse. Il est allé donc avec le livre de Josué et les livres. Et il a mis l'accent sur lui. Par les Écritures. Par la parole de Dieu. Quelle est votre relation avec la parole de Dieu chaque jour? Quelle est votre relation avec la parole de Dieu chaque jour, frère? Est-ce que vous l'ouvrez? Est-ce que vous la mangez? Jésus dit que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors si je ne la mange pas, je ne suis pas vivant. Il y a une logique là. Soyons très logiques avec le Seigneur. Il me dit que l'homme vivra, c'est-à-dire l'homme spirituel. L'homme spirituel vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et moi je refuse de manger la parole de Dieu. Comment je vais vivre? C'est pourquoi ma vie chrétienne est comme ça. Votre Bible là, vous avez la même Bible depuis 25 ans. Elle ne change pas, rien. Frère, écoutez. Deuxième solution, quand il a fini d'expliquer, deuxième solution, verset 30, ils sont entrés dans leur maison, pendant qu'ils étaient à table avec Jésus, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, leur donna, alors leurs yeux s'ouvrirent. Deuxième chose, les actes du Saint-Esprit. Quand il a utilisé les Écritures, il dit, ah, nos cœurs brûlaient. Maintenant, il va passer à un acte. Il prend le pain, il le rompt et il prie. Le Saint-Esprit entre en action. La parole du Saint-Esprit sont les deux éléments qui vous permettent de vivre et d'avoir la révélation de Jésus vivant. Et en ce moment-là, la Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Nous avons chanté un cantique, ouvre mes yeux. C'est formidable. Mes frères, dans cette semaine-là, ça doit devenir notre prière. Ouvre mes yeux sur la réalité de Dieu dans ma vie. Ouvre mes yeux sur cette réalité pour que je ne vienne pas à ce jeûne et prière et m'en aller comme je suis venu sans changement. Voyez ces hommes-là. Dès qu'il y a eu cet impact, l'impact de le résultat maintenant sur leur vie, quand Jésus a disparu, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Vous voyez bien, ils se sont plus assis à Emmaüs. Vous ne pouvez plus rester à Emmaüs quand vous avez la révélation. Vous ne pouvez plus demeurer à Emmaüs, le peuple obscur. Vous devez retourner à Jérusalem, là où on célèbre la résurrection. Jérusalem, c'est la ville de la paix. Vous ne pouvez pas demeurer dans la vie rétrograde. Vous ne pouvez pas demeurer dans une vie anarchique, une vie chrétienne anarchique dans l'impureté. Vous ne pouvez pas demeurer dans le mensonge, dans le manque d'intégrité. Si vous avez eu la révélation de Jésus, ça je refuse. Un chrétien non intègre, ça n'existe pas, ça ne doit pas exister. Tu n'insultes à Dieu. Chrétien menteur, chrétien qui diffame, qui se promet de diffamer les gens, notre bouche n'est pas faite pour ça. Dès qu'ils ont rencontré Jésus, ils l'ont vu, ils n'ont même plus continué à manger. la nourriture est devenue secondaire. Ce qui était important, c'est la révélation. Ils sont retournés annoncer, donc à Jérusalem, la bonne nouvelle. Ils sont allés annoncer à Jérusalem qu'ils ont vu Jésus, que Jésus est, la résurrection de Jésus est une réalité. Ils ont été porteurs de bonnes nouvelles. Ils ne peuvent pas se taire. Quand vous voyez Jésus-Christ, quand vous l'avez eu la révélation par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, même vos voisins, les plus acariates, vous allez leur parler de l'amour de Dieu. Vous allez leur parler de l'amour de Dieu. Ça devient facile. Ça devient très facile de parler aux gens de Jésus-Christ. Mais il faut discerner sa présence. Mais ceux qui n'avaient pas vu Jésus encore, les 11 et les autres disciples qui n'ont pas vu, quand les deux disciples sont venus le raconter, ils n'ont pas cru. Même Pierre, Jean, qui ont couru. Ces gens, seulement quand il a vu le tombeau vide, il a commencé à croire. Que Dieu bénisse et que Dieu continue à nous guider, frères et sœurs. Que Dieu continue à nous donner la révélation. Alors, aujourd'hui, dans cette semaine qui commence, nous allons aller pas à pas chaque soir pour arriver. Il y a plusieurs années, je me débattais avec la présence de Dieu. Je croyais ce que la Bible dit, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je croyais ces théories-là, et cette doctrine, cette parole et la lettre. Mais quand j'avais des épreuves, j'étais balancé, j'étais tourmenté. Où est la réalité de Dieu? Parce que je cherchais à sentir la réalité de Dieu. Mais un jour, Dieu m'a dit, quand je dis que je suis avec toi et que le Saint-Esprit est en toi, c'est une réalité. Apprends simplement, quand ça ne va pas du tout, apprends à rester là, dans ma présence. Dans ma présence, et laisse-moi me manifester et tu verras ce qui va se passer. Quand j'ai commencé à apprendre ça, il y a une dizaine d'années maintenant, alors j'ai commencé à voir ma vie prendre une autre dimension. Je ne suis plus troublé, frère. Quand le trouble vient, quand l'épreuve vient, comme tout homme, on a, dans un premier temps, dans la chair, on a peur. On a peur. Mais, quand je commence à réaliser que mais Dieu dit qu'il est avec moi et il est en moi, alors la confusion s'en va. Je commence à réfléchir, mais le Seigneur est avec moi, il est en moi. Pourquoi vais-je me laisser troubler? Je vais donner un témoignage et avant de terminer ce matin. Le 7 décembre passé, 7 décembre 2007, ma fille qui est aux États-Unis venait d'accoucher. Donc, elle est mariée, elle est là-bas aux États-Unis, elle a accouché d'un garçon. Donc, elle a téléphoné pour nous dire qu'elle est à l'hôpital, l'accouchement s'est bien passé, qu'elle a eu un garçon, ma femme et moi, on était heureux. C'est bon, Samuel m'a dévancé un peu. Et il est vieux grand-père avant moi. Donc nous étions contents, ma femme et moi. C'est le 7 décembre. Donc le 8, on leur a téléphoné. Tout allait bien. Le 9, j'étais dans mon bureau à 13h, c'est-à-dire 14h heure d'ici. Dans mon bureau, le téléphone sonne dans mon bureau. Je prends le téléphone. Et quand je prends le téléphone, la voix me dit au téléphone, Monsieur Karambiri, votre fille vient de faire un arrêt cardiaque, morte. Mais j'étais bloqué. C'est comme si, vous savez, vous avez parlé à votre fille hier et on vous dit aujourd'hui, c'est fini. Les médecins ont dit, il n'y a plus rien à faire. J'étais arrêté. La panique m'a saisi. La peur m'a saisi terriblement. J'étais avec un ami, je lui ai dit de partir. Et que je vais résoudre un problème. J'ai téléphoné à ma femme à la maison, c'était le plus dur. J'ai téléphoné à ma femme. Mais elle a bien pris, et ça veut dire bien pris, elle a eu peur aussi comme moi. Mais j'ai dit, il faut rapidement, parce que si ça dépasse un certain nombre de minutes, même si on veut, c'est fini pour elle. Alors, nous avons commencé, j'ai dit à la tour de prière, à quelques sœurs qui prient dans le groupe de prière, et ben, les docteurs ont appelé leur pasteur. Leur pasteur aux États-Unis, pour que le pasteur vienne pour consoler le mari, pour le consoler parce qu'ils ont dit c'est fini. Le mari a dit pas question. J'ai téléphoné à mon beau-père et tout, ils sont en train de prier. Nous croyons que ma femme reviendra à la vie. Mais les docteurs ont souri. Ils ont dit, mais ils ont fait, ils ont soufflé par la bouche. Non, ils ont mis les machines pour redémarrer. Donc, on continuait comme cela. Et quand j'ai téléphoné maintenant, j'ai trouvé une de ses copines qui avait, une de ses amies qui avait son portable. Quand elle a entendu ma voix, là, elle s'est mise à pleurer, à crier. Je dis, mais, elle dit, mais oui, mais elle criait. Je dis, non, elle s'appelle Adja, tais-toi. Je crois que Dieu est en contrôle. Alors, nous avons continué à prier. À prier. Et puis, à un moment donné, on a téléphoné. Les docteurs ont dit, bon, qu'ils ont réessayé. Bon, le cœur a repris un peu, mais comme le cerveau restait longtemps dans... Donc, il n'y aura rien de bon. Même, elle va mourir. De toute manière, ils ont dit au président... Le président de l'hôpital fait partie de l'église de ma fille. Ils ont dit au président de l'hôpital, bon, on va laisser comme ça, mais sinon... Et deux jours, trois jours après, ils ont voulu enlever les machines. Ils ont dit, bon, au mari, de ne pas espérer. Il a un garçon de laisser tomber. Et quelques jours plus tard, moi, je suis arrivé aux États-Unis. J'ai fait sept jours. Dieu m'a dit, ne te panique pas. Ne te panique pas. Ne te prends pas l'avion pour partir. Je suis resté huit jours. Je suis allé le 15. Donc, je suis arrivé le 15 là-bas. Et quand j'ai trouvé ma fille, on était dans une usine. Des tuyaux étaient dans la gorge, jusqu'au là, pour l'oxygène, dans les nez, partout. Il y avait des machines de tous les côtés. Et elle était couchée comme ça, rien. Donc j'ai dit, mais Seigneur, j'ai regardé. Vous savez, c'est difficile, hein? Je l'ai regardé. Rien. Dans ma tête, presque tout était devenu vide. Mais je me suis arrêté, je me suis encouragé. J'ai regardé ma fille, fixement. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, tu es en moi. Toi qui as ressuscité Lazare, tu es le même Dieu. Tu as ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Tu n'as pas changé. Donc, ce qui importait, ce n'était pas la prière. Non, c'est d'abord être sûr que la présence de Dieu est en moi, est avec moi. Le Dieu qui a ressuscité Lazare, le fils de la veuve de Naïn, tout ce Dieu-là était capable de ramener ma fille à la vie. J'étais là, je regardais. Mais Satan me dit, tu perds ton temps. Puisque le professeur principal est venu, le professeur principal de l'hôpital est venu, il m'a dit, ah monsieur, bon, ce sont des chrétiens, ils m'ont dit, bon, ok, bon, c'est pour m'encourager un peu, mais moi je n'écoutais personne, j'étais là, et les autres priaient, les gens priaient à travers maintenant, on avait commencé à trouver les gens, ils priaient au Ghana, au Burkina, partout. Et là, une semaine, je suis resté avec elle. J'ai fait Noël là-bas, j'ai fait le 1er janvier, et le Seigneur m'a dit de ne pas m'inquiéter, elle va totalement revenir à la vie. Ils m'ont dit que même si elle revenait à la vie, il faut d'abord qu'elle sorte du coma, il faut plusieurs mois, et deuxièmement, en sortant du coma, elle serait comme un légume, c'est-à-dire qu'elle ne parlerait pas, elle ne ferait rien. Donc, je suis resté là, mais frère, c'était difficile, mais Dieu m'apprenait quelque chose. Tu as prêché la présence de Dieu. Tu as prêché la réalité de la présence de Dieu. Maintenant, tu es devant un cas pratique. Est-ce que cette réalité était là, oui ou non? Puisque tous ceux qui venaient, les infirmiers, on a été obligé de changer certains infirmiers deux fois. Des infirmiers qui sont venus nous dire de ne pas, qui nous ont dit clairement de ne pas nous exciter parce que c'est fini. Donc, on a été obligé de dire au directeur des infirmières de les changer parce qu'elles sont négatives. On les a changés, oui. Non, on les a changés. On les a changés puisqu'on a la liberté de demander ça. Alors, nous étions là, avec des sœurs, nous étions en train de crier à Dieu, et les gens priaient. Et au fur et à mesure, je posais, quand les gens parlaient, je parlais en langue. Et j'appelais ma fille, Daniela, tu n'es pas faite pour mourir, tu reviens à la vie. Je lui parlais à l'oreille, je proclamais la parole de Dieu, la parole de vie. Je posais mes mains, le Dieu qui est en moi, maintenant impacte la vie de ma fille. Aujourd'hui, quand j'ai quitté, aujourd'hui, elle est à la maison, elle prépare, elle va dans les supermarchés. Quand les gens la voient, toute la ville, les docteurs sont revenus, son dossier est comme si gros. Des docteurs qui ont... Il y a un docteur l'autre jour qui a dit, quand il a vu le docteur qui a fait de l'accouchement, mais quand est-ce qu'on a ramené le corps de Daniela au Burkina? Elle a dit, mais la dame est assise à la maison, elle chante, elle danse avec son enfant. Le monsieur a fui. Vous entendez? Ça, écoutez. Ça... Quand Samuel m'a parlé la sœur m'a parlé du miracle de Jonathan, j'étais très content. J'ai dit, mais ça, Dieu fait des miracles. Dieu n'a pas changé, frère. Mais si j'étais paniqué, si je tremblais, si je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Non, j'avais peur à l'intérieur en tant que père. Mais je me suis attaché à la présence du Seigneur. J'ai dit, il est avec moi, il est en moi. Je pose mes mains, Seigneur, manifeste. Alors, c'est pour vous dire, frère, que cela, nous allons continuer avec cela chaque soir. Et pendant la semaine, faites tout pour être là. Et je crois que, ça c'est l'introduction, au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez voir quelle est la réalité de la présence de Dieu en vous et avec vous. Et ça va passer de la théorie à la réalité. Vous allez expérimenter cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.